Stop, c'est parti.
C'est quoi la télé?
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Et ben voilà, nous sommes toujours sur France Inter et soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
L'auteur de L'étranger fut-il journaliste par défaut ? Albert Camus, le résistant, l'âme et la charpente de combat. Albert Camus qui, dès ses premiers papiers, mit dans sa pratique une exigence et une radicalité que non seulement il théorisa, mais dont en plus il ne se départit jamais. Reporter à Alger, éditorialiste à L'Express, un livre recense désormais et documente et met en perspective cette somme de presse telle une œuvre à part entière et non face à la littérature comme un champ secondaire. D'autant que l'écrivain accompagna l'ensemble de son travail d'une réflexion déontologique sur le métier, texte en quelque sorte fondateur d'une morale moderne du journalisme.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Maria Santosanz, bonjour à vous.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes universitaire, vous êtes docteur en sciences de l'information, vous avez dirigé l'Institut du journalisme de Bordeaux, au sein duquel vous enseignez toujours. D'ailleurs, vous adressez votre introduction aux futurs journalistes. On va voir à quel point ces textes sont extrêmement percutants, ce sont quasiment des coups de poing à chaque fois, ils sont d'une actualité brûlante, on va en parler ensemble. Vous publiez aux éditions Abogé Albert Camus, journaliste, et c'est préfacé par Edoui Plenel. Alors, Albert Camus reçoit le Nobel en 1957. Écoutez cette archive.
Nous sommes ici quelques-uns des vieux amis de Camus, réunis à Radio Algérie, qui représentons une partie de la jeunesse de Camus. Nous sommes ici très émus parce que nous revoyons maintenant, et nous avons évoqué tout à l'heure, cette figure de tout jeune homme qui déjà s'imposait par une magnifique maîtrise. Il y avait déjà à 20 ans tant de dons en lui, tellement d'autorité, une telle soif de vérité, un tel esprit de fraternité, que tout cela a émergé dans son œuvre.
L'histoire de Camus, journaliste, démarre en Algérie, elle démarre à Alger, il est très jeune, il a 25 ans, il entre à l'Alger républicain, journal qui ne survivra pas très longtemps, à ce moment-là la guerre monte, et qui deviendra le Soir républicain. Et tout est là, finalement, en germe.
Absolument, c'est vrai que c'est son école de journalisme, ouais. Il a jamais passé par une école de journalisme, mais c'est sur l'État qui apprend ses métiers. Il est très jeune, il a juste 25 ans et il a déjà un talent, évidemment, une sensibilité sociale, parce que bon, quand même, il faut pas oublier qu'il avait eu une expérience aussi comme militant au Parti communiste, ouais. Même s'il très éphémère, ouais. Même s'il était exclu. Et il arrive à 25 ans dans cet journal qui était plutôt dans une ligne progressiste, mm-hmm. C'est là mm-hmm. qu'il commence s'exercer d'une manière de reporter ses métiers de journaliste.
C'est
d'abord,
ça.
Il est chroniqueur judiciaire et il essaye toujours de mettre en place un journalisme des côtés des victimes. Il essaye toujours d'aller voir ces vrais gens, des gens invisibles et notamment une défense des victimes, des gens, des innocents avec des causes importantes qu'il a défendues dans ses papiers.
Alors il faut rappeler d'où vient Camus. Il faut rappeler d'où il vient. Personne autour de moi ne savait lire, mesurer bien cela, rappelait-il beaucoup plus tard.
C'est très important. C'est vrai que l'univers familial, il était très éloigné des univers cultivés. Sa mère, il était analphabète, sa grand-mère aussi.
Sa mère était sourde et muette. Elle était femme de ménage. Lui, il est orphelin de père. Il n'a jamais connu son père, mort à la guerre. Ça explique peut-être, ça forge peut-être son pacifisme.
Absolument. Cette absence du père qui est mort pour la France dans la bataille de la Marne, vraiment créer cette espèce d'engagement envers les pacifismes et aussi contre la barbarie. Il faut savoir qu'il a considéré toujours l'Espagne comme sa seconde patrie par son origine familiale dans cette famille qui venait de l'immigration de l'île de Menorque. À la maison, il parlait les dialectes, même minorquins. Et c'est vrai que c'était très important l'Espagne aussi, point de vue idéologique, parce qu'il était toujours engagé également des côtés des républicains espagnols, une fidélité qu'il a poursuivie.
Férocement anti-franquiste jusqu'au bout.
Voilà, absolument. Et c'était là qu'il a mené ses combats à faveur de la démocratie et des côtés des républicains espagnols avec cette fidélité qui émergeait dans tous ses écrits journalistiques, évidemment.
Voilà. Alors, Camus va quitter l'Algérie, il va rejoindre la métropole, il deviendra secrétaire de rédaction à Paris Soir. C'est une expérience relativement brève et pourtant elle est importante parce que Camus est vraiment un homme d'encre et de papier. Camus, c'est un journaliste qui ne méprise pas les rotatives, qui ne méprise pas l'imprimerie, ni les camarades de l'imprimerie. Il aime faire, il aime avoir les mains dedans.
Absolument, il aimait rester au marbre. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il aimait beaucoup l'esprit des camarades.
Au marbre, voilà. Le jargon.
Et cet esprit des camaraderies, oui. qu'on y trouve aussi avec toutes ces linotypistes, typographes, tous ces ouvriers du journalisme qui sont là. Et c'est là qu'il sentait vraiment cette plaisir qu'il avait déjà retrouvé également. Au moment qu'il avait participé à plusieurs groupes théâtrales aussi, et même dans l'ambiance du foot, il aimait aussi énormément, il préférait jouer en équipe. Ça, c'était absolument
jouer en équipe. Ouais. Alors, Camus va rejoindre la résistance au tout début de la guerre, et notamment un journal créé en 1941 qui s'appelle Combat. Il faut savoir que pour Camus, écrire puis diriger Combat un peu plus tard, c'est courir le risque d'être arrêté, exécuté par la Gestapo sans cesse. Il aura d'ailleurs un pseudo, Albert Maté. C'est un journal édité clandestinement pendant la guerre, 58 numéros. Écoutez ce qu'en dira Albert Camus à la fin du conflit.
Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire sans émotion. Cette joie bouleversée qu'on commence à lire sur le visage des Parisiens est aussi et plus encore peut-être la nôtre. Mais la tâche des hommes de la résistance n'est pas terminée.
C'est la voix de Camus, lisant son propre édito. Il faut bien savoir que quand Combat pourra être librement distribué en août 44, il est tiré à 200 000 exemplaires. C'est immense. Et c'est un journal qui a une incroyable influence à l'époque, Maria Sainte-Joseph.
Absolument. Une influence, pas seulement en France. Il est resté un journal de référence en Europe. D'abord par sa liberté, par ce journalisme libre et incarné, et éloigné de toutes sortes de connivences, des partis politiques, du pouvoir, évidemment. Je crois que dans l'histoire de la presse en France, c'est un modèle unique et un modèle qui reste quand même d'une grande actualité.
Alors, il faut savoir que, évidemment, le journal va être imprimé en zone libre à Lyon, mais que finalement, Camus continue de travailler à Paris pour Gallimard le jour, la nuit pour Combat, qui va rameuter les meilleures plumes de l'époque. Autour de lui, Bataille, Gide, Sartre, Aron, Léris, Bernanos, tous vont écrire dans Combat et on dira plus tard de Combat que ça a été un des journaux français les mieux écrits de notre histoire de la presse.
Absolument, la qualité d'écriture, les tons, l'analyse, la lucidité des papiers, des articles, des éditoriaux, ça reste quand même un modèle de journalisme et un modèle que je pense qui doit nous inspirer encore aujourd'hui.
Alors, il y a beaucoup des engagements de Camus qui vont passer par Combat dans les années d'après-guerre notamment. Camus qui s'oppose finalement à l'épuration radicale que préconisent les communistes. Camus qui est pour la réconciliation, que la justice serve la réconciliation. Et en même temps, dans les éditos et les textes de Combat, on retrouve toute cette réflexion sur le mal, dites-vous dans votre ouvrage. Le mal avec un M majuscule.
C'est vrai qu'il a été modélé par le journalisme. On y trouve dans tous ses éditoriaux à l'époque des Combats beaucoup de réflexions qui ont nourri après son œuvre, ses romans, ses pièces de théâtre. Également, il faut y penser, par exemple, à la série Ni bourreau ni victime, vraiment, dans lesquelles il essaye de comprendre, d'analyser aussi les sources du mal et notamment la banalité du mal. Quelque part, il était même précurseur aux réflexions qui ont été plus tard développé
par Hannah Arendt,
aussi, et c'est vraiment d'une lucidité visionnaire aussi de ces côtés vraiment de la barbarie et de la côté de la culpabilité des êtres humains face à cette horreur.
Alors reparlons de l'Algérie, reparlons du colonialisme parce que c'est l'occasion pour Camus après la guerre de retourner en Algérie et de signer des reportages absolument incroyables où là aussi il mêle l'enquête de terrain et l'écriture, l'observation, et il rapporte des histoires et il brosse la misère en Kabylie. Ce sont des textes très durs, ce sont des uppercuts à chaque fois. Et pourtant, Camus se murera dans un silence qui lui a valu beaucoup d'hostilité au moment de la guerre d'Algérie.
Oui, absolument. Il faut savoir aussi qu'un des nouveautés du livre aussi, c'est parler de cet Albert Camus, reporter, même journaliste d'investigation, même si c'était une terminologie qui n'existait pas à l'époque. Il s'est rendu sur les terrains en Kabylie, c'était une région qui était vraiment oubliée, où personne ne l'attendait. C'est là qu'il faut que les journalistes travaillent, puissent rapporter cette réalité d'émissaire. Il a fait une excellente radiographie qui reste effroyable et vraiment et très intéressante pour voir à quel point les indigènes ils vivaient dans des conditions complètement indignes d'un être humain. Et cette enquête vraiment du terrain où il a été un véritable journaliste.
Et d'ailleurs, presque... il théorise sa mission. Il dit qu'il n'y aura pas de décision politique sans que l'on sache à Paris ce que l'on vit en Kabylie.
Absolument. Il y a plein de données. Lui, là, il s'est très bien documenté sur les terrains. On peut dire même qu'il y a du data journalisme, dans le sens qu'il essaye de comparer la grille des salaires des ouvriers agricoles et de voir aussi comment il y avait un manque d'infrastructures, manque d'écoles, des problèmes vraiment de santé, les gens ils avaient faim, ils étaient en train de mourir de faim. Tout ça c'était très documenté, très contextualisé, c'est tout
puis
un modèle.
Puis vient la guerre d'Algérie.
Et voilà.
On est après le Nobel.
Absolument. Et ça reste quand même, j'y pense, un des reportages vraiment modèle de cette Camus qui essaye de rendre visibles les invisibles et donner la voix aux sans-voix. Une des missions journalistiques de ces Camus qui doit nous inspirer aujourd'hui et nous inviter aux journalistes aussi à se rendre dans ces lieux qui sont un peu oubliés.
Alors, évidemment, on a parlé d'engagement après-guerre. Sartre et Camus furent très amis, on le sait. Ils rompirent dans les années 50 et ce fut source de grands tourments pour Albert Camus. On l'écoute.
Un écrivain travaille solitairement et jugé dans la solitude. Surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Pour peu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. Cela explique d'ailleurs la plupart des engagements d'écrivains. On n'a pas plutôt perdu la solitude qu'on se prend à la regretter, et les engagés de la politique veulent bien qu'on agisse ou qu'on tue à leur place, mais à la condition qu'ils gardent le droit de dire que ça n'est pas bien du tout.
Camus, journaliste, voilà des éditos de combat, des textes engagés, des reportages en mission. Et voilà Sartre qui lui répond par lettre ouverte dans sa revue à lui, Les Temps modernes. Il traite Camus d'écrivain à la morale de Croix-Rouge. Je lis un extrait de ce texte, de cette lettre ouverte que vous publiez, Maria Santosens, dans votre ouvrage. Ce texte est terrible, terrible, d'un mépris et d'une violence terrible. Je lis Sartre. Je trouve comme vous que ces camps sont inadmissibles. On parle du goulag, sujet sur lequel se déchirent Sartre et Camus. Et Sartre continue. Mais inadmissible tout autant l'usage que la presse dite bourgeoise en fait chaque jour. Et si vous vous étiez trompé, dit-il à Camus. Et si votre livre témoignait de votre incompétence philosophique. Je n'ose vous conseiller de vous reporter à L'être et le néant, qui est le grand livre de Sartre. La lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Vous détestez la difficulté de penser.
Ouf! Absolument, très abdominem, c'était un mépris absolu de l'agrégé vers quelqu'un qui considérait plutôt...
Agrégé et ancien élève de l'école normale supérieure.
Absolument. Et envers un Albert Camus, bon, même s'il était à cette époque déjà avec une certaine notoriété, quand même, il avait ses côtés un peu plus autodidactes. Il n'était pas sorti des grandes écoles non plus.
Quand Sartre parlait de Camus, il disait ce petit voyou d'Alger, très marrant, très truand.
Voilà, il le mettait à sa place de cette manière.
Enfin,
je pense aussi, absolument. C'est vrai que je crois que, et même s'il a été le fondateur des temps modernes, des Libé aussi, quelque part, Sartre, il n'aimait pas vraiment les journalismes. C'était une voie pour transmettre ses idées, sa propagande aussi.
C'est ce que vous pensez-vous, que Sartre a été jusqu'au bout relativement méprisant finalement avec les choses de la presse, tenant en haute estime la philosophie et la littérature, et en basse estime finalement les œuvres les œuvres et les publications d'actualité.
Oh, si, bien sûr. Et aussi, il y a aussi les clivages idéologiques de l'époque. Bien il faut sûr. Rajouter, évidemment, donc Sartre, à cette époque-là, il était obnubilé par l'Union soviétique. Ouais. Et donc, à tel point que, bon, c'était critique des dénonciations des goulags de la part de Camus, ça l'a dérangé parce qu'il pensait qu'il ne fallait pas l'utiliser comme une arme politique contre l'Union soviétique.
Alors, autre bras de fer par voie de presse interposée, beaucoup plus feutré, beaucoup plus moucheté et en même temps assez élégant et très intéressant, c'est celui d'Albert Camus et de François Mauriac. Alors, Mauriac disait avec beaucoup d'humour « Nous nous fournissions réciproquement des sujets d'édito ». C'est très joli.
Absolument. C'est vrai qu'ils étaient tous les deux de grands polémistes, deux éditorialistes, l'un d'une, incarné d'une presse plutôt conservatrice, donc
Mauriac.
Mauriac, au Figaro. Et Camus, c'est délicieux de vraiment lire les différents éditoriaux entre l'un et l'autre. Bon, c'est chacun avec sa manière, son style. D'abord avec cette polémique autour de l'épuration. Et c'est voilà, une invitation aussi à voir un journalisme vraiment d'une grande qualité.
C'est ça, parce que Mauriac et Camus ne sont pas d'accord sur la question de l'épuration, justement. Pas d'accord, et ils ont du mal à se rejoindre, même si Camus, lui, a changé, finalement, d'idée au sortir de la guerre.
Oui, il a évolué, Camus. C'est vrai qu'au départ, François Mauriac, il était plutôt pour la charité, donc les pardons. Et Camus, il était plutôt avec un point de vue de vraiment de rendre justice après toutes les atrocités de certains collabos au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin, c'est vrai qu'il y a eu pas mal des abus aussi de la part de certains partis politiques autour de la manière d'appliquer aussi l'épuration. Il a changé, il a évolué et c'est ça aussi la complexité, la lucidité des Camus.
Alors, vous parlez de méta-journalisme à propos d'Albert Camus et c'est absolument passionnant parce que c'est en effet tout un travail journalistique qui s'accompagne d'une réflexion sur le métier de journalisme.
Et c'est vrai que bon, il y a des articles qui ont été malheureusement censurés, c'est manifeste pour un journaliste libre.
Oui.
Il donne vraiment
1939.
Tout à fait, et qui a été retrouvé il y a quelques années par un journaliste du Monde, épouillé par le Monde en 2013. Et cet article vraiment et permet aussi il y a toutes les idées de comment les journalismes et les journalistes ils doivent travailler dans une démocratie, leur mission, comment il faut essayer de mener ces combats pour une indépendance aussi, une indépendance à l'égard de l'argent notamment, donc
mais
c'est
ça
une
aussi,
grande
c'est
actualité
incroyable, incroyable de relire ça aujourd'hui. Il faut quand même rappeler qu'il a préféré voir mourir combat que de renoncer à l'indépendance financière et économique de combat et de laisser un actionnaire rentrer au capital de combat.
C'est vrai que ça, c'était un exemple unique à quel point qu'il a pas souhaité avoir des nouveaux actionnaires qui pourraient changer la ligne éditoriale. Donc, dès là, c'était un projet vraiment de journalisme honnête et intègre. Il faut aussi savoir qu'il a toujours défendu l'importance de la liberté de la presse, également face au pouvoir, face à la connivence.
Il ne s'est pas épargné la critique féroce, qu'il pouvait mener à l'encontre de beaucoup, beaucoup de titres et de journalistes. Il ne s'est pas épargné cette critique, c'est-à-dire que, y compris à l'époque combat, il a toujours donné dans l'autocritique.
Absolument. Il pensait que la remise en question, c'était très important, c'est une manière aussi de s'améliorer, d'être exigeant dans ce métier dans lequel il faut chaque jour essayer de se dépasser. Et dans ce sens-là, il nous inspire, il nous invite vraiment à mener un journalisme du terrain, exigeant, et toujours des côtés des victimes, comme on l'a entendu tout à l'heure, un journalisme révolté aussi, si on peut dire.
Mille merci, Maria Santosanz, mille merci d'être venue nous voir. Albert Camus, journaliste, reporter à Alger, éditorialiste à Paris. La préface est d'Edoui Plenel et c'est publié aux éditions de l'Apogée. Merci beaucoup.
Merci.